Marie-France, que s'est-il passé du côté de Vrac pour laisser passer une histoire semblable sur ses conseils de sex-fille, la bourde du réseau? Comment expliques-tu ça?
Écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vrac, d'ailleurs, a annoncé très rapidement qu'elle allait revoir sa ligne éditoriale. Dès samedi, le message avait disparu. Et tout dans cette histoire-là, Paul, est stupéfiant et ça témoigne d'une méconnaissance d'enjeux cruciaux dans la société actuelle. D'abord, c'est la gaffe d'une importante entreprise, Bell, trois jours après le grand branle-bas annuel, Bell Cause. C'est une entreprise qui s'est donnée comme mission entrepreneuriale de parler de santé mentale et de donner de l'argent à la recherche. Et c'est très bien, ça lui fait une belle image, c'est du gros marketing, mais ça a vraiment des effets réels sur la recherche et sur le fait qu'on parle de santé mentale beaucoup plus qu'avant. Probablement, ce qui est arrivé chez Vrac, qui est une filiale, donc Bell Media, probablement qu'un ou une pigiste débutant ou débutante, mal payé, qui se trouvait smart, laissé à lui-même, a décidé de pas, hey, ça serait le fun, sex-fille, c'est cool, et elle a écrit son article. Mais Bell doit être impeccable quand elle se dore l'image en étant socialement impliquée. Elle doit faire passer le message à ses branches qui produisent du contenu, donc Vrac TV. Il faut prendre ça au sérieux et pas à temps partiel. C'est une grave lacune. Donc, il y a la faute. C'est deux connexions qui ne se sont pas faites. Mais Bell doit vraiment avoir une vigilance de tous les instants quand elle s'implique dans Bell Cause, puis ça venait juste de se passer. Il y a aussi des grands trous dans tout le discours et tous les gestes sur la prévention, le harcèlement, l'intimidation. Les sex-filles, c'est la porte ouverte à l'intimidation, à la stigmatisation, qui peut dégénérer en cas de problème de santé mentale, justement. Je vais faire un rapport avec tu as lu certainement cet article passionnant, ce reportage d'Isabelle Haché en fin de semaine sur Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec. C'était dans la Presse Plus de samedi.
Excellent article.
Oui, et elle raconte à quel point ce garçon-là se faisait harceler, mais tous les jours, et il y en a conçu une immense colère et un ressentiment. Tous les harcelés ne deviennent pas des tueurs, mais tous les harcelés ont vraiment des problèmes et sex-fille égale harcèlement très, très, très potentiel. Ça parle aussi de notre analphabétisme numérique. On est des illettrés des internets. On est des imbéciles dans notre connaissance des enjeux et des risques à publier des photos et des informations sur les réseaux sociaux. Des contenus, d'ailleurs, qui ne nous appartiennent plus, qui appartiennent au Google, au Facebook de ce monde. Et les Instagram, Snapchat, Facebook, tout ça, c'est du partage. On y met donc certainement dans le cas des sex-filles, ça implique des jeunes filles, souvent mineures. Donc, on produit de la pornographie juvénile. On est naïf, suiveux et vaniteux dans notre méconnaissance des réseaux sociaux. C'est encore incroyable aujourd'hui de dire ça. Ça parle aussi, évidemment, de sexisme et d'hypersexualisation qui a encore des beaux jours devant elle à l'heure de MeToo. L'article était totalement genré. Ça s'adressait aux filles. « Vas-y, ma belle, oublie les notions de consentement, fais de la porno soft, gratis, abandonne tes droits, soumets-toi. » C'est inouï que quelqu'un ait écrit ça quelques temps après le mouvement « Moi aussi ». Puis ça parle évidemment de l'importance d'éduquer les jeunes à la sexualité. Tu te souviens, on en a parlé il y a quelques semaines. Parce qu'Internet, parce que le web, parce que la pornographie, ce n'est pas une éducation adéquate. Bref, tout était réuni, tous les éléments, tu vois, tous les éléments étaient réunis pour avoir une tempête parfaite. Mmh. Une grosse compagnie qui se pense socialement impeccable, un pigiste épais, une naïveté face au web, une éducation sexuelle déficiente. Ben, ça a donné ce que ça a donné. Heureusement, tout le monde a réagi très vite et a dénoncé Marois Risky, la députée libérale, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, ont dénoncé sur Twitter. Tout le monde a été très, très, très rapide.
Oui, il faut s'attendre, évidemment, à une réaction de la part du réseau.
Il le faut, j'espère, oui.
On va parler de ce surprenant sondage léger sur le vote fédéral au Québec. Je dis surprenant de par ses résultats. Mm-hmm. De par ses résultats, parce que c'est comme si le Bloc était ressuscité. Y aurait-il un effet Blanchet?
Ben, j'aime beaucoup que tu dises surprenant parce que il faut le prendre avec un grain de sel. Le sondage léger est le seul à avoir vu ça dans sa boule de cristal. Il faut dire que le Bloc, selon un sondage de novembre, était à 16%, donc avant l'élection ou le couronnement de Yves-François Blanchet. Il était mourant. Et là, c'est vraiment comme si Yves-François Blanchet était arrivé et que c'était un électrochoc, tu comprends-tu, une dose d'épinards en intraveineuse directement dans le Bloc, parce que ça les donne au Québec à 21% et les conservateurs aussi à 21%, donc à égalité. Et ça dit aussi que si l'élection fédérale avait lieu la semaine dernière, Justin Trudeau et ses libéraux seraient grands gagnants au Québec. Ça, à peu près tout le monde s'entend pour dire ça. Mais pour ressusciter le Bloc comme ça, est-ce que c'est l'effet Yves-François Blanchet? Est-ce que c'est l'effet yo-yo, le PQ étant au plus bas, on veut une police d'assurance comme très souvent ça a été le cas entre Québec et Ottawa? Ou est-ce que c'est l'effet sondage léger? Parce que je te le dis, c'est très jovialiste. Et une fois ils sont les seuls à voir ça, hein, il y a eu la semaine dernière un annonce qui mettait le Bloc à 14. Là, on parle quand même de 21%. Le Main Street était à 13,5. Donc, il y a un très, très grand écart. Il va y avoir un sondage bientôt. J'ai hâte de voir si ça se poursuit. Et puis encore, faut-il, ce chiffre-là, 21%, il faut que ça se traduise en termes de députés. Il faut que ça se redistribue dans les circonscriptions.
Ça, c'est pas sûr.
C'est pas sûr. Québec 125, Philippe J. Fournier, qui suit ça de très près et qui redistribue, donnait les députés du Bloc, qui sont 10 actuellement, il en mettait 3 à 8 selon comment ça retombait par circonscription. Mmh. On est donc très loin de la coupe aux lèvres. Alors,
Mario Beaulieu a réagi aux choses. C'est rare que tu commentes un sondage très favorable, très optimiste sur ton parti en disant
«
calmons-nous ».
De dire ça,
c'est ce que fait Mario Beaulieu aujourd'hui. Tout Maxime Bernier, lui, 13%.
Au
national, mais 6% seulement au Québec.
Au Québec, mais à Québec, à la Baume-Lande, là, 13%.
Oui.
À un tel point que Gérard Deltel et Pierre Paulus, les députés conservateurs du coin, sont à 32% des intentions de vote, mais les libéraux seraient à 28% dans la région de Québec. Ça veut donc dire ça qu'à 13% dans la région de Québec, Maxime Bernier pourrait faire que les libéraux passeraient. Tu comprends? Il serait comme un kingmaker.
Un joker.
Exactement. Donc, ça veut dire qu'il se passerait des choses dans la région de Québec. Ça pourrait vraiment à suivre comme phénomène et l'impact du Parti populaire de Maxime Bernier, qui serait en train de gruger les appuis des conservateurs. Mais tout ça pour dire qu'on a très hâte au prochain sondage. Il va y avoir un annonce demain et j'ai l'impression que beaucoup de conservateurs, beaucoup d'émules de Maxime Bernier et beaucoup de bloquistes vont le surveiller, mais alors là, de très, très,
ça
très.
Tu as raison. Ça va nous faire une belle campagne électorale extrêmement
chaude. Elle va être intéressante, cette campagne. Mais honnêtement,
si j'étais chez les néo-démocrates, écoute, ils ont baissé à 8% d'appui. Je dirais, mais on ne pourra pas survivre. On ne pourra pas se rendre à l'élection. Est une force majeure avec notre chef actuel. Et
c'est
ça ne se peut pas.
Non,
8%! 8% d'appui, en tout cas.
Et c'est te dire combien la vague Jack Layton, la vague orange, était vraiment une vague Jack Layton. Et c'était une espèce d'anomalie électorale. Probablement qu'il va rester uniquement Alexandre Boulris.
Et Ruth Hélène Brosseau.
Exactement. probablement les deux seuls survivants néo-démocrates.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain, Paul.
À demain.